Échec des négociations cette semaine. Les organisations syndicales appellent les chauffeurs à boycotter l'américain Uber. Boycott jusqu'à ce que leur rémunération soit augmentée. La dette publique française a reculé au troisième trimestre 2016. Baisse de 10,3 milliards d'euros, ce qui la ramène à 97,6% du produit intérieur brut. Pas sûr que ce soit suffisant pour remplir l'objectif fixé par le gouvernement pour l'ensemble de 2016. Il prévoit une dette publique à 96,1% du PIB. Le CSA adresse un nouveau carton jaune à l'émission « Touche pas à mon poste » présentée par Cyril Hanouna. Le gendarme de l'audiovisuel engage une nouvelle procédure de sanction contre C8, la chaîne qui diffuse ce programme. D'après le CSA, il véhicule des préjugés sexistes. Fin novembre, l'institution avait déjà engagé une procédure de sanction contre C8 et « Touche pas à mon poste ». Il lui reprochait alors une atteinte au respect de la personne humaine. Et puis Armel Lecléache, le leader du Vendée Globe doit franchir le Cap Horn aujourd'hui. Au plus tôt, ce sera en cette fin de matinée. Au plus tard, ce sera en début d'après-midi. Le Cap Horn, c'est le dernier des trois caps du Vendée Globe. Il est situé à l'extrême sud de l'Amérique latine.
C'était le fauve dans l'arène.
La marche de l'histoire.
C'est une figure extraordinaire. Une sorte de hippie avant la lettre, si vous voulez, une barbe comme ça.
Jean Lebrun.
En 1961, cinq colonnes découvraient le philosophe dans son deux pièces.
Des grands philosophes qui nous parlent d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi.
Tout à l'heure, dans la marche de l'histoire, Gaston Bachelard, au coin du feu.
À partir de 13h30.
Cher Père Noël, comme cadeau cette année, j'aimerais bien avoir une écharpe. Même une moche, même trouée, c'est pas grave. Même une en laine qui gratte. L'important, c'est qu'elle tienne chaud. Parce que quand on passe Noël dans la rue, il fait très froid.
On ne vit pas tous le même Noël. Mais on peut tous aider ceux qui sont dans la rue en faisant un don sur armeedusalut.fr.
Allez, à 11h04, on retrouve Nagui et la bande originale.
Merci Marc Poitvin, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Bienvenue avec Leïla Kanou, vous êtes là.
Bonjour à tous.
Tom Villard.
Bonjour.
Frédéric Tigris.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour à tous.
Et Charles Ornac qui vous accompagne au clavier.
Bonjour.
Et notre invité, Ladislas Chola.
C'est pas vrai.
C'est...
Oh. D'où Jésus,
Ladislas Chola qui met en scène un nombre incalculable, je ne sais même pas comment il arrive d'ailleurs, un nombre incalculable de spectacles, que ce soit Oliver Twist, que ce soit Avant de s'envoler, Plein Feu, Momo, Résiste, j'espère Tom Villain. Enfin, non, je suis même sûr que vous n'avez pas compris pourquoi on l'a invité.
Mais bien sûr que si. Vous
vous l'avez dit, Nagui, parce qu'on avait une chance sur trois. Voilà, c'est celui dont le nom est écrit sur une affiche sur trois à Paris. Voilà, j'ai l'impression d'ailleurs qu'ils sont que trois à Paris. Il y a Assous, Murat et Chola. Les autres, de simples techniciens. Ils vissent les ampoules. Voilà. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir, Ladislas. Oui, un metteur en scène de théâtre dans une émission.
Croyez-le.
Ah, non, on est très heureux de vous recevoir.
Pique de sa joie.
Dans une émission de radio ou de télé, c'est assez rare qu'un metteur en scène Vienne, c'est aussi rare qu'un ancien président de la République dans un tribunal, donc voilà, on est très heureux de vous recevoir, et voilà, comme l'a dit très justement Nagui, c'est vous, Ladislas, qui mettez en scène la comédie musicale Oliver Twist. C'est une histoire d'enfant pauvre qui arrive à s'en sortir à force de rêve. Voilà, c'est beau, c'est fort, c'est social, contemporain d'une certaine façon. Il paraît que Fillon a détesté, et Oliver Twist, le pitch, je vais essayer de pas spoiler, mais c'est l'histoire d'un orphelin qui galère et qui s'en sort. Voilà, allez, merci, bonne journée.
T'es fou de dire la fin.
Non mais... Alors évidemment, il lui arrive plein de trucs entre-temps. Il trouvera son salut grâce à la rencontre d'un vieil homme riche et solitaire. C'est beau, ça me rappelle l'affaire Bettencourt. Non mais c'est à la base Oliver Twist, c'est un roman culte écrit par Charles Dickens et l'adaptation en comédie musicale est vraiment géniale. Et c'est vrai qu'en France, on aime bien adapter des monuments littéraires en comédie musicale. Il y a eu Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette,
Les Misérables.
En France, il y a eu Les Misérables.
Oui, au début, ça a pas marché, mais ça continue. En Angleterre, aux États-Unis.
Oui, mais donc en France, ça n'a pas marché. Les Trois Mousquetaires,
Robin
des Bois, Le Rouge et le Noir. Bon, alors autant Notre-Dame de Paris, on peut le dire, c'était plutôt réussi, mais j'avoue que les autres. Bah, j'avais pas lu dans le livre des Trois Mousquetaires que Athos, il faisait du hip-hop. Voilà. Alors ça, je dois avouer que...
Pas mal lu.
C'est vrai? Non, mais t'imagines. Sors ton épée, Athos, nous allons tous nous battre. Attends, je peux pas, je finis ma coupole et mon backflip arrière. C'est vrai qu'en tout cas, il est très fort, Brahim Zaibat. Du coup, faudra aller vérifier les caveaux de Dumas et de Stendhal. Parce qu'à force de se retourner, ils ont dû affaisser le cimetière. C'est pas toujours évident. Oh, c'est vrai qu'au moins, si on adaptait d'autres succès littéraires en comédie musicale, ça pourrait être intéressant. Je sais pas, moi, le dictionnaire de Laurent Baffy.
La définition du gendre, c'est le mec qui met les pieds sous ta table et les doigts dans ta fille.
Non.
Il y aura une plus-value.
C'était voilà. Le vrai texte
c'est
de Baffy.
Évidemment. Ouais. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez non. Les salles golf, les vieux riches et les spectacles
j'ai
magiques pour
compris.
Les petits élégants,
répéter,
Oliver Twist non. Est fait pour vous.
C'est ça.
Vous avez très bien entendu.
La bande originale.
T'as craqué ou quoi? T'as craqué?
Frayeur que j'ai eue. Ladissa Chola, donc, vous mettez en scène Oliver Twist à la salle Gaveau, et ce jusqu'en février 2017. Partir, comme l'a dit un peu Tom Villa, d'une histoire de misère et de tristesse, pour en faire un spectacle chanté, c'est une promesse un peu particulière, non?
Oui.
Il date de quand ce projet?
En fait, moi je suis dessus depuis après un an et demi, mais les créateurs, le compositeur Shai Alon et Christopher Delarue, ça fait plus de 10 ans qu'ils le portent ce projet.
Ah carrément, d'accord. Ouais. Okay.
Parce que c'est des projets longs, les comédies musicales, il y a du monde sur le plateau, c'est des productions difficiles à trouver. Et à chaque fois, c'est des vrais paris parce que c'est difficile de monter ça. Et moi, en fait, on m'a envoyé un DVD avec une lecture qu'ils avaient faite, une sorte d'étape du projet. Et dès que j'ai entendu la musique, je suis parti. Et puis, c'est assez rare, en fait, qu'en comédie musicale, il y a un livret qui soit aussi profond, aussi important. On est plus dans une comédie musicale qui est proche de Broadway, de ce qui se passe à Broadway. Et souvent en France, les comédies musicales sont, c'est plus des images. Enfin, il y a l'histoire est pas très importante. En fin
on embrasse Dovatia.
Non, je citerai personne. Mais du coup, là, si vous voulez, non, je vais pas commencer à me faire des ennemis tout de suite là, pour démarrer.
Vous en avez assez comme ça déjà.
Voilà, ça exactement. J'en ai plein, des armées d'ennemis. Non, mais là, en fait, si vous voulez, l'histoire est vraiment importante. C'est vraiment du théâtre musical, et c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher. C'est-à-dire que j'ai l'impression de vraiment faire mon métier de metteur en scène de théâtre, et en plus, c'est musical, et la musique, elle est génial quoi, le compositeur.
Y aurait-il quelqu'un de bien dans ce monde? Quelqu'un qui saurait que je suis plus que ça?
Quand vous dites c'est plus une comédie musicale à Broadway qu'à la Paris, il y a une vraie cloison, une vraie différence dans l'analyse. On va commencer déjà par les musiciens. À Broadway comme en Angleterre, le groupe est réellement dans la fosse d'orchestre.
Exactement,
et on voit le chef d'orchestre, généralement d'ailleurs qui est filmé par une caméra pour que les comédiens puissent le voir diriger et suivre le tempo, ce qui n'est pas du tout le cas dans certaines comédies musicales françaises.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, la musique, elle est vraiment présente. Ils jouent en live. Suivant comment on est placé, on voit en effet ce fameux écran où le chef d'orchestre est à fond les ballons alors qu'il est enfermé dans une petite loge sur le côté. La salle Gaveau, si vous voulez, c'est un lieu qui est pas adapté en fait pour ce genre de spectacle. Alors moi, les musiciens, je les ai mis un peu où j'ai pu, c'est-à-dire où il y avait de la place pour les mettre.
Oui, il y a pas de fausses orchestres.
Non, il y a pas de fausses orchestres. En fait, c'est à la fois un temple de la musique classique, mais c'est la première fois qu'on met en scène une comédie musicale dans ce lieu. C'est-à-dire que il y a pas de cintre, il y a pas de grille, il y a pas de dégagement sur les côtés. Et en fait, c'est un pari fou, si vous voulez.
Les cintres et les grilles, c'est pour faire monter les décors, les faire disparaître dans les hauteurs, et qu'on puisse faire des changements,
des changements rapides.
Voilà.
C'est un cinéma en fait, la salle Gaveau.
Non. À la base, je crois pas, mais je crois que c'est surtout une salle de musique de concert classique.
Et tout le monde est sur scène. Ok.
Voilà, c'est ça. Et du coup, si vous voulez, il y a pas besoin en fait de changement de décor pour la musique classique.
C'est une très jolie salle. Je suis pas très sûr au niveau de l'acoustique pour une comédie musicale par rapport au classique. Est-ce que vous avez souffert de ça ou pas?
En fait, ce qui est pas évident, c'est qu'elle est géniale pour l'acoustique, mais nous, il a fallu qu'on ait des heures de réglage pour trouver la bonne acoustique. Par rapport au micro, etc.
Je suis sûr que ce projet dans cette salle,
c'est une bonne idée parce que tous les gens qui viennent là, en fait, ils découvrent la salle et disent waouh, on est tellement proche des artistes, etc. Et moi, j'ai fait en sorte que le spectacle qu'il soit aussi dans la salle, c'est-à-dire qu'en permanence, en fait, le spectacle se joue au milieu des gens et c'est ça qui leur plaît.
Voilà. Ce soir, jamais je n'aurais cru en être capable, mais je plaide coupable. Dis-moi qui est cet homme dans le lit.
Et les chansons, donc c'est là où on se rapproche peut-être de ce que vous entendez par Broadway, c'est-à-dire que les chansons racontent des histoires plutôt que d'avoir des refrains, des gimmicks et des slogans.
Oui, c'est vrai, les chansons elles sont totalement intégrées à l'action et elles font avancer l'action, ce qui est le propre en fait de la comédie musicale américaine, c'est qu'on apprend dans les chansons des informations,
c'est de
comme si c'était la suite des dialogues.
C'est vraiment exactement. La narration, ouais. Et c'est pas là de façon ornementale pour entraîner le public.
Ouais. Comme dans La Reine des Neiges.
Voilà. Et voilà, c'est très différent de La Reine des Neiges.
Oui, mais ça fait avancer l'histoire aussi.
Je crois qu'il entend matin, midi et soir. Une quinzaine de personnes sur scène, de comédiens, de chanteurs, énormément de costumes, les décors, les musiciens, c'est tout ça est lourd,
c'est lourd
à organiser. Vous en êtes le metteur en scène, le rôle du metteur en scène. Il est vraiment là, pleinement défini, c'est-à-dire que vous devez vous occuper de chaque personne, de chaque musicien, de chaque comédien, de chaque chanteur.
En fait, moi, je gère l'ensemble, c'est-à-dire que ça va en fait du choix des artistes jusqu'au choix de leur costume, jusqu'à ce qu'ils font sur scène, comment est leur personnage, la psychologie des personnages, comment ils chantent leurs chansons, l'interprétation des chansons. C'est assez large en fait, et je suis content en fait depuis quelques temps je commence à démarrer mon métier de metteur en scène de comédie musicale. J'avais fait beaucoup de théâtre avant, mais c'est vraiment hyper complet.
Vous avez fait Résiste aussi, de France Gall et Michel Berger. Vous mettez en scène en ce moment aussi Avant de s'envoler de Florian Zeller. C'est la troisième pièce de Florian.
C'est la troisième pièce de Florian
que vous mettez en scène avec Robert Hirsch, Isabelle Sadoyan, Claire Nadeau, Anne Loiret, François Ferroletto, Léna Brébant. C'est-à-dire que là, ils sont que 6 sur scène, mais avec un monstre du théâtre qui est Robert Hirsch, que vous mettez en scène pour la deuxième fois.
Robert Hirsch, je connaissais pas.
T'es pendant 2 secondes avec Sacha à regarder Tommy Lazan. C'est triste. Je vais lui expliquer. Non, mais parce que vous l'avez déjà mis en scène au Théâtre des Champs.
Je l'avais mis en scène en fait au Théâtre des Champs, au Théâtre Héberto dans Le Père, en fait, qui était une pièce qui aujourd'hui voyage partout dans le monde, qui est créée mondialement partout. Et c'est vrai que c'est un sacré monstre.
D'abord avec Isabelle Gélinas, ensuite avec Florence Pernelle.
Tout à fait. Et c'est un sacré monstre, mais en fait, Hirsch, c'est un monstre de théâtre dans le bon sens du terme. C'est que c'est un type qui est très facile à diriger, qui est d'une simplicité désarmante, qui est au service du spectacle. Enfin, moi j'ai beaucoup appris de mon métier de théâtre en le voyant travailler.
Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on est metteur en scène de diriger d'un côté Robert Hirsch et de l'autre côté un gamin qui va interpréter Oliver Twist, dont je vais essayer de retrouver le nom.
Nicolas Mottet.
Merci. Nicolas Mottet, j'imagine que là, on a un gouffre d'expérience, évidemment légitime par le nombre des années. Et puis d'un coup, est-ce qu'on est aussi paternel avec l'un qu'avec l'autre? Est-ce qu'il faut être paternel avec Robert Hirsch parce qu'il faut le rassurer, parce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il faut pas être trop paternel avec Nicolas?
Pour moi, être un bon metteur en scène, c'est m'adapter en fait à la personne que j'ai en face de moi. Et en fait, quand je
pense que tous les comédiens pensent l'inverse. Ils doivent se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter au metteur en scène pour qu'il m'engage. Le comble, c'est que c'est vous qui voulez vous adapter.
Mais c'est vrai que quand je travaille avec Muriel Robin, je travaille très différemment quand je travaille avec Robert Hirsch ou avec Bruno Solo.
Muriel Robin, François Berléand, c'est sur Momo. Ouais, vous avez aussi mis
j'ai une grosse activité. Le public va rien comprendre, va dire,
il y a Muriel Robin dans Oliver Twist.
Le public va comprendre une chose.
Muriel Robin ne joue pas avec Robert Hirsch dans Oliver Twist. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une chose qui est claire. Non, mais en tout cas, il faut que je m'adapte, en fait, à chacun d'eux. Ils ont des personnalités. Et en fait, pour bien diriger un acteur, il faut comprendre comment il fonctionne, comprendre où sont ses angoisses, où sont ses fragilités. Et par contre, j'ai la même exigence avec chacun. C'est-à-dire que Nicolas Mottet, qui a 16 ans, qui joue Oliver, il arrive, son premier vrai grand spectacle professionnel, je lui demande le même niveau d'exigence que celui que je demande à Robert Hirsch. C'est pas le même chemin pour y arriver. Chez Robert, en fait, je suis avec un acteur qui est assez âgé, qui a 91 ans. Donc, il faut aussi une certaine patience, malgré tout.
J'aime bien ce doux euphémisme, assez âgé, 91 ans. Et il est en forme incroyable.
Il est dans une forme exceptionnelle.
Chaque fois quand je vois Robert Hirsch, il est dinguissime. Et puis
mais c'est faux parce que vous êtes metteur en scène, vous êtes chorégraphe, vous êtes psy, vous êtes éducateur.
Alors en fait, je suis pas chorégraphe. Par contre, tout le reste, oui.
Tout le reste, oui.
Non, chorégraphe, non. J'ai un chorégraphe qui bosse avec moi et heureusement sur les Oliver Twist, parce que si c'était moi qui faisais les chorégraphies, le spectacle serait nettement moins bon, à vrai dire.
Vous avez essayé ou pas?
Non, pas encore, mais alors, en fait, pour tout vous dire, ça commence à me tenter.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut abandonner quand on passe du théâtre à la comédie musicale? Il y a plein de metteurs en scène comme ça qui ont une carrière assez éclectique. Si je prends l'exemple d'un Chéreau, par exemple, il a aussi mis en scène des opéras. Est-ce que ça fait partie de votre vision globale de votre métier?
Bien sûr. Ouais. Moi, en fait, les prochains grandes aventures, c'est l'opéra, c'est le cinéma. Ouais. Voilà, c'est les deux prochaines aventures auxquelles j'aimerais toucher. Mais la comédie musicale est un bon pont, si vous voulez, pour arriver jusqu'à l'opéra, je crois. Et après, il faut des étapes. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu l'impression de pas être compétent sur tout. Et puis il y a des
c'est ce qu'on entend.
Ouais,
c'est surtout pour ça que vous êtes bienvenus à cette table, parce que c'est le club des incompétents.
En fait, c'est les pluricompétents et les pluri-incompétents. Voilà. En revanche, Ladislas, je me fais une remarque, il y a beaucoup de comédies musicales en ce moment à l'affiche à Paris. Il y en a pas mal maintenant.
En fait, on a créé cette année plus de comédies musicales à Paris qu'à Broadway. C'est-à-dire que on a eu droit grâce à ça à une grande page dans le New York Times avec Oliver Twist, parce que justement ils disent, en fait, Paris devient une capitale du musical, ce qui est totalement neuf en fait.
Et comment est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer, même si on n'a pas de en tout cas vous, votre vision de ça?
Moi franchement, les comédies musicales, c'était les plus grandes émotions de spectateurs. Quand je suis allé voir Billy Elliot à Londres, par exemple, j'ai eu la chance d'aller voir Hamilton à New York, qui est le spectacle en ce moment, qui a eu tous les prix, etc. Mais moi, je sors sur un nuage, en tant que spectateur. J'ai pas vu Mary Poppins.
Queen, non, j'ai pas vu encore.
Non, mais ma culture, c'est Cats, par exemple, qui sont des grands spectacles mythiques. Mais moi, je vole quand je sors d'une comédie musicale qui est réussie. C'est-à-dire que je suis comme un gamin, etc. Et je crois que, voilà, les gens, ils ont envie de partager ces émotions-là. Et moi, en tant que metteur en scène, j'ai envie de donner cette émotion-là.
Et vous avez vu Emmanuel Macron en meeting?
Non, j'ai pas vu. J'ai l'impression qu'on vole aussi. Enfin, lui, il vole, en tout cas.
Ouais. C'était pas ce mot-là, mais incroyable.
Voilà, Étant donné le succès, il y a des prolongations jusqu'au 26 février 2017. Il vous reste donc 2 mois pour profiter lors d'un passage parisien. J'imagine que c'est lourd à faire partir en tournée une comédie musicale comme Oliver Twist.
Oui, mais ça va partir en tournée. Et après, moi, j'essaie de faire en sorte qu'en tournée, les spectacles soient aussi beau qu'à Paris, quoi. Voilà, il faut y arriver, donc voilà, bon, c'est notre combat.
Très bien. Lorsque on vous annonçait la venue de Ladislas Chola, Leïla, vos oreilles ont sifflé.
Oui, immédiatement, Ladislas, quand je pense à vous, je pense à un chanteur que j'adore et à cette chanson qui m'accompagne depuis quelques semaines tous les matins dans mon automobile.
Parti.
C'est comme ça,
ton automobile.
Ouais.
Ouais. C'est pas vraiment une voiture.
C'est une automobile. On ne peut pas dire une autolib, c'est pour ça.
C'est pas non plus une autolib. C'est une automobile.
Une automobile, ce mot existe. Je sais que ça vous étonne.
C'est vous, Julien Clerc, en français.
C'est lui qui a mis en scène Julien Clerc.
C'est justement ça, vous avez mis en scène Julien Clerc, la famille Chédid aussi. En quoi ça consiste tout d'un coup? Parce que là, c'est encore une autre discipline, même si elle n'est pas clairement estampillée.
En fait, pour Julien Clerc et la famille Chédid, c'était deux façons de travailler très différentes. Julien Clerc, j'ai vraiment participé à toute la création vidéo de son spectacle, imaginer la scénographie, travailler sur l'ordre des chansons, etc. Et les Chédid, en fait, ça a été un temps assez court. Comme en fait, c'est la première fois qu'ils travaillaient en famille, ils voulaient pas que l'un d'eux soit le leader, donc il fallait un leader. Et du coup, je suis arrivé, j'ai très vite travaillé avec eux. Au début, ils ont été très perturbés parce que j'ai changé tout le spectacle tel qu'il était prévu. Je pense que j'ai failli me faire virer le troisième jour. Mais finalement, ils m'ont gardé et ça s'est très bien passé.
Ce que l'on entend à la radio aussi, c'est le petit sourire avec lequel vous racontez ça, comme une espèce de petite malice, petite souris qui vient se mettre dans les rouages de la machine. Parce qu'on imagine bien qu'avec la famille Chédid, c'est tous des leaders potentiels.
Oui, exactement.
Et que vous êtes arrivé comme un peu un trublion.
Mais c'est exactement ça. Mais je fais un métier génial parce que chaque mise en scène, c'est un voyage. Et j'adore, en fait, passer d'un univers à l'autre. D'un coup, me retrouver face à Julien Clerc, à travailler avec lui sur ses choix de vidéos. Il avait jamais mis de vidéo dans ses spectacles. Là où, chez moi, c'est un peu une marque de fabrique, l'utilisation de la vidéo. Et voilà, c'est très joyeux, en fait, d'un coup, de rencontrer un artiste, d'essayer de mettre en avant son répertoire, de faire en sorte qu'il soit au mieux et qu'il soit au mieux pour son public. Et c'est très joyeux.
Et la confiance est là. Et la confiance est là. Par exemple, un Julien Clerc qui a une carrière incroyable, qui a monté quand même beaucoup de spectacles, enfin beaucoup de shows.
Il décline quand même.
De façon bien élaborée.
Il sera ravi.
J'aimerais te voir en forme à son âge.
Ah ouais, moi aussi.
Ah, je serais mort d'ici là.
Surtout si tu continues à parler comme ça.
La chance que j'ai eue avec Julien, c'est qu'il vient voir beaucoup de mes spectacles de théâtre. Et en fait, avant qu'on se mette à travailler ensemble, il y a eu, enfin, je sais pas, 4-5 ans où il est venu voir mon travail, on a pu discuter, etc. Et c'est souvent des chemins longs, en fait, oui, pour que la confiance soit là.
Mais c'est pas du jour au lendemain que tout d'un coup on confie le répertoire, exactement, ouais, et la scène. Ouais.
Le problème, c'est que vous devez avoir énormément de demandes parce que vous êtes le metteur en scène le plus bankable de la place de Paris, n'en déplaise aux autres. Systématiquement, quand vous vous occupez d'un spectacle, c'est gage de succès et de qualité. Donc, les sollicitations doivent être nombreuses. Comment faire le tri?
Ouais, elles sont nombreuses. Franchement, c'est l'envie. Et c'est la chance que j'ai. C'est-à-dire que j'accepte rien si je n'ai pas l'envie.
Donc, vous devez dire non.
Ah, bien sûr, je dis non à beaucoup de projets. Mais j'ai cette chance-là de pouvoir dire non et de pouvoir dire non. Et en fait, d'aller vraiment que vers ce qui me touche et ce vers quoi je pense avoir un peu de compétence. Parce qu'il y a plein de choses. Si je lis un texte, etc., puis je dis, mais ça, je sais pas ce que je peux en faire.
Faut que ça vous touche, donc.
Ouais, faut que ça me touche.
Quand vous engagez sur un projet, vous garantissez son succès ou pas?
Bien sûr, hein, ouais, je le garantis par écrit. C'est tellement facile, les recettes du succès.
Ouais. Vous êtes un peu d'arty dans l'attitude.
Bien sûr.
Je suis trop confiant.
J'ai un contrat après-vente, je viens après.
C'est bien. Suivi clientèle, la promesse. Ouais, non, mais c'est super.
Et vous changez le comédien gratuitement s'il est défectueux?
Mais tout à fait.
Il cherche du boulot.
Et quand je pense à vous, Ladislas, je pense aussi à un générique un peu daté, je l'admets, mais qui devrait vous rappeler quelques jolis souvenirs.
Ah, c'est ton portable.
C'est pas un générique.
C'est quoi ça?
Un générique d'émission télé, on va dire. Au théâtre ce soir.
Ah, c'est vrai qu'il y avait la sonnerie.
Eh oui.
D'accord.
Parce que moi, je vous sais que des trois coups.
En fait, ça se limite juste à cette sonnerie-là et aux trois coups.
D'accord.
Qui ne se font plus.
Non.
Qui se font moins, ouais.
Mais pourquoi?
Aujourd'hui, c'est jugé comme un peu ringard, en fait. Mais peut-être à cause de ça. Non, mais ça se fait, je crois que ça se fait encore à Édouard VII, me semble-t-il. Les trois coups, mais plus dans les autres théâtres.
Je crois pas.
Non, seulement
ce qui ne dit pas qu'Édouard VII est un théâtre de ringard, hein.
Oui,
que j'ai dit
un petit peu, vous l'avez dit.
Est-ce que Dovatia ne va pas jouer?
En tout cas, pour revenir à ce programme télé, au théâtre ce soir, c'était quand même un programme qui a commencé à émerger dans les années 65-66, qui a duré une trentaine d'années. C'est même pas. J'adore. Et qui avait ce mérite-là, c'est que tout d'un coup, il donnait à voir du théâtre, assis dans un fauteuil à la maison, à travers l'écran de télévision, ce qui est assez fantastique. Et je crois que vous, vos premiers émois théâtraux, on va dire, par ce biais-là.
Moi, j'étais dans une famille nombreuse, on est 6 enfants chez moi, et en fait, c'était très difficile pour mes parents de nous amener au théâtre. Mm-hmm. Et du coup, j'ai découvert le théâtre à la télévision. Et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de théâtre pour la télévision. Je suis en train de répéter en ce moment une pièce qui va se donner en direct à la télévision.
Quelle est-elle?
Parce que d'un coup, je sais plus si j'ai le droit de dire que ça va se donner en direct à la télévision.
C'est une pièce qui s'appelle
Plein Feu, que je suis en train de créer avec Lynn Renaud, Fanny Cotenson, Pierre Santini.
C'est pour quelle chaîne?
Lionel Abelansky, c'est pour France Télévisions.
Bon, ça va, vous êtes protégé par Nagui.
Didier Kaminka.
Voilà, c'est ça, l'adaptation de Didier Kaminka.
Avec Lionel Abelansky.
Lionel Abelansky.
Et c'est important de rappeler que c'est une émission du service public aussi, cette ouverture-là, et que c'est fondamental, puisque la preuve, vous êtes la preuve vivante, en fait, que vos premières envies, elles sont quand même nées aussi grâce à ce vecteur qu'est la télévision, très
populaire.
Et la
première chaîne.
Mais j'essaie, la précédente pièce de Sébastien Thierry, c'était deux hommes tout nus, est passée à la télé, ça a été un énorme succès.
Ouais, c'était un succès. Mais après, il y a les pièces qu'on crée et qui sont transmises à la télé, et il y a des pièces qu'on crée spécialement pour la télé. Moi, c'est la troisième que je fais, c'est qu'on répète aussi longtemps que si on allait jouer pendant 6 mois. On joue entre 8 et 15 fois. Et la 15e fois, elle est donnée en direct. Et après, le projet s'arrête là. Mais c'est assez génial, en fait, cette émulation, et de se dire qu'un soir, on joue pour 2, 3 millions de
spectateurs. Ce que je vais faire pour que vous soyez tranquille, donc Plein Feu, vous allez le mettre en scène. Ça sera au Théâtre Hébertot avec Lynn Renaud, Fanny Cotenson, Lionel Abelansky, Raphaëline Goupillot. Il y a 14 représentations exceptionnelles à partir du 23 janvier. Puis, ça passera en février sur France 2. Comme ça, c'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi.
Merci.
Comme ça, vous êtes couvert. Et justement.
Alors, vous savez que son contrat s'arrête fin janvier.
Je ne savais pas.
Et quel est votre premier souvenir de pièce de théâtre, justement, à la télé, au théâtre ce soir C'était Philippe Sebag, hein, c'est ça?
En fait, j'ai un. Oh, je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'est Le Canard à l'Orange. Mm-hmm. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Il y avait Robert Michel Lamoureux. Roux, Robert Lamoureux. Oui. Et je crois que c'est mon premier souvenir de théâtre à la télé.
Voilà. Notre invité, Ladislas Chola, metteur en scène. D'ailleurs, il y a une tout à l'heure, j'ai dit l'un des meilleurs metteurs en scène. Il y a une compète, il y a une concurrence entre les metteurs en scène.
En fait, on se voit assez peu.
Je pense à Bernard Murat, justement, puisqu'on parlait d'Edouard VII tout à l'heure.
Murat, je le connais un peu. Je connais un peu Nicolas Briançon, un peu Alexis Michalik, mais un peu Benoît Lavigne. Benoît Lavigne, je connais bien. Mais on se voit assez peu, en fait, parce que on est chacun dans nos courses respectives.
Est-ce que vous avez entendu d'être en compétition sur le même projet? Non, mais genre, un projet se monte, et puis d'un coup, il y a eu deux, trois metteurs en scène contactés.
Oui, ça arrive, ouais. Il y a des fois un esprit de compète comme ça, mais franchement, moi, je trouve qu'il y a la place pour tout le monde, et moi, je travaille tellement que je me sens pas du tout en compétition.
Oui, puis pour ça va très bien aussi, ouais.
Et pour ça va bien. Donc.
Oliver Twist, le musical, c'est à la salle Gaveau jusqu'au 26 février de l'année prochaine.
Et en tournée, sûrement.
On dit l'année prochaine, c'est jusque dans une semaine. Voici l'humeur de Frédéric Sinis. Et si, c'est maintenant.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Ladislas Chola. Quand on m'a dit que vous veniez nous parler d'une comédie musicale, j'étais enchanté. Je me disais, tiens, ça va me faire du bien une comédie musicale. Les fins d'année dans le froid, la fatigue qui s'est accumulée, les primaires politiques, les pics de pollution. T'as besoin de te détendre. Et la comédie musicale, c'est le média idéal. Tous ces acteurs qui se mettent à chanter et à danser dès qu'ils vont acheter du pain. J'adore. Et puis, je suis tombé sur le pitch. Oliver Twist est un orphelin qui vit dans un hospice où il subit des privations et des vexations. Choisi par tirage au sort par ses camarades affamés, il ose demander une portion de gruau supplémentaire et est alors placé chez un croque-mort d'où il s'échappe pour prendre la route de Londres. C'est là qu'il va rencontrer une bande de pickpockets.
Vu comme
alors,
ça, oui.
Comment vous dire ? À quel moment, en lisant l'œuvre de Dickens, vous vous êtes dit « Hey, mais tiens, ça ferait une bonne comédie musicale !» Parce qu'à ce moment-là, Germinal ferait une très bonne pièce de boulevard. Alors, c'est vrai qu'on associe rarement la pauvreté et la chanson. Alors, si vous allez me dire « Les Restos du cœur », eh ben, c'est bien ce que je dis. On associe rarement la pauvreté et la chanson. C'est vrai, on n'imagine pas des sans-abri chanter n'importe où comme ça. Enfin, remarquez, si, ça existe déjà, ça s'appelle la ligne 13 du métro parisien. Et c'est vrai, il y a énormément de gens qui font la manche en chantant dans le métro. Il y en a tellement qui n'ont malheureusement pas tous le talent de le faire. Moi, je suis tellement blasé maintenant, c'est malheureux. J'ai l'impression d'être un jury dans The Voice. Je me rends compte que si le mec a du talent. Allez, aux autres, je leur dis là, on vous rappellera. Et puis, je me suis souvenu que si, il y avait un dessin animé de mon enfance avec un générique improbable, Rémi sans famille.
Écoutez. Bien sûr.
Je suis sans famille.
Je m'appelle Rémi.
Je m'appelle Rémi.
Tu fais bien.
Et je me balade. Avec tous mes amis. Vitali.
Vitali.
Dolce. Joli cœur. Zerbino. Capi. Et Rémi, pardon. Bon, faire le. Et attention là, montée dramatique. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages.
Frédéric.
Ma famille.
Frédéric, tu es à l'antenne.
Oui, excusez-moi.
Je vous ferai bander proche la semaine prochaine.
Moi, je ferai la suite plus tard. Mais voilà, je me suis dit que finalement, et si on pouvait faire rimer musique et pauvreté. Alors, mon fils m'a demandé qui était Oliver Twist. Et je lui ai dit, tu vois Harry Potter, quand il vilait dans le placard sous l'escalier chez son vilain oncle et sa méchante tante, avant qu'Hagrid l'emmène à Poudlard et qu'il découvre le monde merveilleux de la magie. Eh bien, Oliver Twist, c'est un Harry Potter qui n'a jamais découvert la magie. Voilà, il est resté dans la merde toute sa vie. Alors, il s'est évidemment mis à chialer. Il a eu la même réaction quand je lui ai montré Antéchrist de Lars von Trier. Il est extrêmement sensible, mon goût. Et puis, en cette veille de Noël, je me suis dit, tiens, Oliver Twist, c'est l'histoire idéale pour donner une leçon de vie à mon fils. Je lui ai dit, tu l'as vu, Oliver Twist? Il a vraiment rien dans la vie. Il n'a pas de parents, il n'a pas de maison, il n'a rien. Alors que toi, t'as des parents, t'as une maison, t'as même un lit. T'as pas honte?
Allez, bonne nuit.
Tu crois qu'à Noël, Oliver Twist, il fait une liste au Père Noël où il demande des Pokémon Soleil sur Nintendo DS? Non. Parce qu'Oliver, non seulement il a pas de Nintendo DS, mais en plus il sait que même s'il en avait une, le Père Noël, il donne pas de cadeaux aux enfants pauvres. Parce que le Père Noël, il aime pas les pauvres.
Finesse.
Et tu voudrais recevoir un cadeau d'un type comme ça? Là, il s'est remis à pleurer, il a dit, non papa, c'est bien ce que je pensais. Donc j'invite tous les parents qui nous écoutent à filer à la salle Gaveau, voir Oliver Twist le musical, un formidable spectacle avec vos enfants, parce que jamais si beau spectacle ne vous aura fait faire autant d'économies.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Dans quelques instants, nous allons parler de la littérature française et de la force narrative, justement, avec Jean-Joseph Julot qui sera notre invité. Mais d'abord, on va évoquer quelques dates en musique et pour savoir ce que vous écoutiez, par exemple, lorsque vous avez découvert, le théâtre et votre...
C'est pas grave.
C'est bientôt la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Non, justement, non. En 87, vous écoutiez...
Mais on vous obligeait, non?
Non, pas du tout.
Si c'est pour faire le lèche-cul, après c'est Julien Clerc, c'est ça? Non, ouais,
non, pas du tout.
Donc vous étiez vraiment fan de France Gall quand vous étiez gamin?
Fan. Berger Gall, ça a vraiment bercé ma jeunesse et tout ça. Et non, je me souviens que mes sœurs, on dansait là-dessus comme des fous et tout. Ah non, j'adorais.
Comment on est face à quelqu'un qu'on a porté au nu et idolâtré pendant son enfance? Est-ce que vous étiez intimidé la première fois que vous avez rencontré France Gall?
Intimidé au début, puis comme elle déménage un peu France Gall, après faut être assez costaud et tout, et puis faut pas être timide très longtemps quoi.
Ça s'est mal passé.
Non, c'est très bien passé. Non, franchement, justement, ça s'est très bien passé. Après, il fallait, c'était son projet de comédie musicale, il fallait que j'impose quelque chose.
Elle est costaud surtout, elle laisse rien passer,
elle a du répondant, ouais. Mais en même temps, elle est très exigeante, elle sait ce qu'elle veut, elle est à fond, elle est passionnée, elle est venue à un nombre de dates incalculables du spectacle, elle est très moteur quoi. Et non, j'étais très impressionné, mais très heureux.
Sans jamais avoir chanté avec la troupe qu'elle avait montée et mise en scène, c'est peut-être l'un des regrets donc qu'on peut avoir.
Je crois pas, en tout cas c'était pas du tout son envie avec ce projet là et c'était plutôt
assez... Non, c'était l'envie de la troupe.
On sent que
les chanteurs, chanteuses qui faisaient partie de la troupe résiste auraient aimé un final par exemple pour la dernière parisienne avec un clin d'œil. Oui.
Mais je crois que c'est derrière elle France, c'est-à-dire que en tout cas aujourd'hui elle veut plus chanter et voilà, c'est quelqu'un qui affirme ses choix et je la vois pas revenir en arrière là-dessus.
Donc en 87 vous avez à peine 12 ans et c'est en classe de 5e que vous vous retrouvez attiré par le monde du spectacle, c'est-à-dire vous avez eu l'idée d'une mise en scène?
Oui, c'est-à-dire après, en cinquième, c'était ma mère qui faisait les costumes, mon beau-frère qui faisait les décors. En fait, à l'époque, je ramassais des bouts de carton, vous savez, les cartons que les magasins jettent, je les collais. Et je les découpais avec une scie électrique pour créer des décors. Je faisais mes maquettes de décors en Lego. Ouais, je suis encore tout gamin et tout ça. Mais déjà, c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà.
Et après, l'être moderne, enfin, des études très classiques.
Faire plaisir à mes parents, parce que le théâtre, ça faisait peur tout de suite, etc. Donc, je fais des études de lettres.
Mais à 12 ans, une scie électrique, il devait se débarrasser de vous. ça me revient, là, d'un seul coup. C'est étrange, quand même.
Non, j'avais des parents qui me laissaient faire un peu mes petites activités.
1993. Vous écoutiez. Jimmy Somerville, que nous avons reçu dans cette bande originale et qui a la même voix. Ouais, et qui a toujours la même voix à l'époque des Communards avec You Are My World. Là, vous jouez dans vos propres mises en scène, c'est-à-dire que vous vous cherchez entre comédien et metteur en scène ou vous...
Oui, au départ, je voulais être acteur et puis en fait, je suis un très mauvais acteur. Je suis vraiment. Enfin, quand je joue, je me trouve vraiment très mauvais. Et puis je me dis, mais
quand on joue,
ça n'empêche pas de faire une carrière.
Est-ce qu'on est...
Regardez François Berléand.
Est-ce qu'on est le mieux placé pour
savoir. Voilà, François Berléand, il revient.
Est-ce qu'on est le mieux placé pour savoir si on joue juste?
Moi, c'est aussi pour ça que je me suis senti metteur en scène. C'est qu'en fait, j'arrivais pas à être à l'intérieur de mon personnage. Je me jugeais, j'étais déjà extérieur en fait. Et puis pendant que je jouais avec les autres, je me disais, mais pourquoi il est pas dans sa lumière celui-ci? Pourquoi il dit cette réplique comme ça?
En plus, vous êtes mauvais camarade.
Non, mais exactement, j'étais mauvais camarade. Non, mais j'étais fait pour être metteur en scène, moi. J'étais pas fait pour être acteur.
Vous avez décroché un DEA de lettres modernes à Aix.
Ouais, Aix.
Aix en Provence. Vous avez créé votre propre compagnie, le théâtre de l'Héliotrope.
Oui, à l'époque, je suis dans le théâtre public à ce moment-là. Voilà.
Subventionné donc.
Là, subventionné, ouais.
Vous avez joué tout nu?
J'ai joué tout nu, ouais, dans le Cantique des Cantiques.
Évidemment.
C'est vrai, non, mais comment vous savez ça?
C'était un public nu.
Non, mais
Je suis désolé, j'en ai fait aussi, j'ai été tout nu. Hein.
C'est vrai.
C'est ça, c'est cliché.
Tu as blessé personne?
Non. Mais... Avec Olivier Pie.
Radio Public, vous croyez que ça se passe comment? Tout nu.
Vous devenez assistant metteur en scène de Gildas Bourdet à La Criée. Et vous avez poursuivi en mettant en scène des auteurs classiques, qu'on dit tout à l'heure, Musset, Beaumarchais, mais aussi des contemporains. Vous avez commencé aussi à écrire.
J'ai écrit ma première pièce que je vais adapter au cinéma l'année prochaine.
Ouais. Ah d'accord, ça c'est une vraie info ça.
Bah ouais, c'est ça que je vais transformer en film en fait l'année prochaine.
C'est-à-dire la première pièce que vous ayez écrite deviendra l'année prochaine un film.
Exactement, oui.
Mais alors j'imagine
qu'il va le réaliser.
C'est moi qui vais le réaliser. Ouais.
Il y a combien d'années de maturation? Il y a eu combien de versions? Vous êtes à la V24?
Ouais, j'en suis à peu près à la V24, exactement. Non, mais c'est une pièce qui parle de mes 30 ans et voilà, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai assez de recul pour pouvoir en parler. Voilà.
Et c'est plutôt une comédie? C'est plutôt une.
Je crois que ça s'appelle une comédie dramatique. Voilà, c'est entre les deux. Voilà. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui d'un coup décide de tout changer dans sa vie.
Et pourquoi ne pas l'avoir fait d'abord au théâtre alors?
C'est ce qui s'est passé.
Non, c'est une pièce de théâtre. C'est ce que je viens de dire. C'était une pièce de théâtre.
Ah oui, non, mais je croyais qu'à la base, il avait parlé
en français de la réaction gênante.
J'ai monté,
mesdames et messieurs, voilà.
Encore un moment. C'est gênant, il est
pas. Ça vous dirait pas les comédies musicales d'en faire de temps en temps, mise en scène?
Et pourquoi pas demander à Robert Hirsch de jouer un jour au théâtre?
Je suis pas sûr. Mais il est plein de beaux, hein.
En 2009, vous écoutez Benjamin Biolay.
Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans.
Ça vous évoque quoi d'ailleurs cette chanson qui est sur la transmission et l'héritage justement d'un père et son fils?
Bah c'est une chanson qui m'a donné envie d'être père, voilà.
Ah, carrément.
Ah, bah, c'est gentil pour la maman.
Bah, y a pas de maman, moi, dans mon cas, parce qu'on est deux papas.
Ah!
Les pieds dans le
et
plat,
voilà. Allez, et là,
je viens de te rejoindre!
Et alors là,
ça vous dirait pas de faire des comédies musicales de temps en temps?
C'est parfait, Ladislas. Voilà. On va avoir la paix pendant au moins 10 minutes.
Exactement.
Ah, non, attention, t'es optimiste, hein. J'ai pas dégainé.
Là, je les ai mouchés.
T'es optimiste, là.
Merci, Ladislas.
Non, je suis papa, en fait, de deux jumeaux, de deux garçons, en fait, que j'élève avec mon amoureux. Voilà, on est deux papas qui élevent des enfants. Voilà.
Ben c'est gentil pour le papa.
Voilà. Ouais, absolument, absolument.
Et cette chanson de Biolay est tellement belle sur la transmission.
Et ce sont de vrais papas, c'est-à-dire que chaque fois que tu les croises à une pièce, ils ont leur portable et ils disent regarde, ouais, ils montrent les enfants.
Et vous n'étiez des balles portables au théâtre.
Félicitations. Après le spectacle.
Félicitations.
2009, c'est l'année où vous passez au théâtre privé. Alors quand on n'est pas du public, quand on n'est pas du privé, quand on dit simplement vous passez du théâtre public au théâtre privé, on a l'impression qu'il n'y a pas une très grosse différence.
En fait, c'est assez simple, vous perdez à peu près tout votre réseau professionnel et puis vous en créez un autre. Voilà.
C'est aussi catégorique que ça?
Ouais, c'est catégorique. Ouais.
Ah, il parle pas. Ouais.
Non, c'est encore des mondes qui se parlent.
Il y a mépris.
Non.
Une ouverture d'esprit.
En tout cas, pour moi, il y a une sorte de frontière qui est tellement, tellement bête. Quoi. Voilà, je trouve qu'on est des gens qui devraient être très ouverts dans le théâtre, etc. Et puis il y a ces deux mondes qui se regardent.
Mais même le public est différent. Hein. Malheureusement, il y a
bien sûr, mais après,
t'as un public d'abonnés dans certains théâtres.
Oui, mais dans la conception, quand tu parles avec les spectateurs, tu sens qu'il y a des conceptions différentes de ce qu'ils attendent d'un spectacle, de ce qu'ils vont chercher.
Et c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Après, il y a aussi un public qui est capable d'aller à la fois dans le public et à la fois dans le privé parce qu'il est capable de repérer ce qui est de qualité. Après, ceux qui prêchent uniquement pour leur chapelle, c'est un peu leur problème.
C'est ce qu'on fait dans cette émission en accueillant
tout et n'importe quoi.
Les deux théâtres. Vous avez commencé par Très chère Mathilde d'Israël.
Il a dégainé, tu vois, il voulait pas. C'est pas Ladislas qui a pris, c'est toi.
Au théâtre Marigny, j'assume ma programmation dans cette émission.
En fait, c'est Pierre Lescure et Lynn Renault qui sont venus me voir, qui sont venus voir un de mes spectacles à Amiens et qui m'ont tendu la main pour aller dans le théâtre privé. Et en fait, à Amiens, je montais une pièce d'Israël Horowitz dans le théâtre public. Mmh. Et puis, j'ai monté une pièce d'Israël Horowitz dans le théâtre privé, ce qui pour moi me paraissait finalement assez simple. Hein, c'était le même auteur, etc. Et d'un coup, je suis passé au privé. Donc, suite à ça, en fait, j'ai eu un an et demi de chômage absolu parce que d'un coup, plus personne ne voulait me voir ni dans le public ni dans le privé. Et puis pendant cette année et demie, j'ai écrit ma pièce.
Ni dans le public, ni dans le privé. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les deux milieux, il n'a pas
il s'était grillé.
En fait, dans le privé, j'étais suspect parce que je venais du public. Voilà. Et dans le public, bah, c'était plus possible parce que j'avais fait une mise en scène dans le privé.
En fait, c'est pas que le mépris du public pour le privé, c'est aussi que le privé va réagir un peu la même manière avec défiance.
Ça fait un peu peur, ça fait un peu peur en fait, la mettre en scène du public. Ouais.
En 2014, vous écoutez en version acoustique. J'imagine
ce fil de voix incomparable.
Bien sûr, elle est forte.
C'est elle pour le comédie musicale.
Elle a beaucoup bossé avec Armand Altaï et on sent qu'elle a musclé
son cœur. Armand Altaï.
D'où vient le nom?
Elle est vivante, Armand Altaï.
Je souhaite,
mais
je
bien
souhaite,
sûr. Et elle forme les chanteurs. Et par exemple, Nicolas Motet, qui joue dans Oliver Twist, a pris quelques cours avec Armand Altaï.
Génial.
Bien sûr.
Pour revenir à Sia, ça serait un pied ultime pour vous de mettre en scène un personnage comme Sia?
Ah ouais, bien sûr. J'adore. Tu vois, moi, j'adore les gens qui ont du caractère. Et sur scène, il faut mettre des gens de caractère. Björk, évidemment. C'est une telle actrice géniale dans Dancer in the Dark.
Pour ça, Camille aussi. Tu verrais bien Camille, chanteuse.
Et vous êtes fort en casting,
Camille. Ouais. Qu'il y a un truc organique chez Camille où elle joue avec l'espace. Elle danse superbement bien.
C'est une sacrée personnalité, en tout cas.
Et il faut des personnalités au théâtre.
Écoute, j'aimerais bien.
Christophe Maé, vous connaissez?
Oui, je connais également. Ouais.
Le maître.
C'est ton moment.
Mais je me demande parce que j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose de Christophe.
Je ne sais que vous dire.
Sia. Alors 2014, c'est l'année où vous faites trois mises en scène parallèles, mises en scène ambitieuses, des cartes du pouvoir au théâtre Héberto.
C'était génial.
Dont
ça.
On avait parlé ici.
Bien sûr,
avec Raphaël
Persona, Élodie Navarre.
Élodie Navarre, oui.
Deux hommes tout nus dont on a parlé donc au théâtre de la Madeleine. Mm-hmm. Avec François Berléand et Sébastien Théry, Sarah et Jérémy repris au Théâtre de Paris et le triomphe du père.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est là où ça commence. Ouais. Ah oui, des grosses années.
C'est quand je vois mon CV que je me dis, mais en fait, je bosse tout le temps, quoi. Mais comme je suis très dans le présent et dans l'avenir, je regarde très peu, en fait, dans le passé. C'est le propre du théâtre aussi, de créer des choses qui sont faites pour disparaître.
Ne vous inquiétez pas, les impôts sont là pour regarder dans votre passé.
Oui, exactement. Ça, les impôts, ils se souviennent de moi, eux, par contre. Hein.
C'est plutôt bon.
Tous les ans, on se souvient.
Bien sûr,
c'est
plutôt bon.
Eux, ils sont fidèles.
J'ai eu la chance de
payer tes impôts
aussi, de vous voir après les cartes du pouvoir ou après notre père, et vous êtes avec vos notes dans les loges au moment où avec Leïla on peut aller saluer les comédiens. Vous êtes là, vous avez pris des notes. Ouais. Comment vous faites quand vous avez plusieurs mises en scène pour vous diviser, pour vous partager, pour ne pas être trop absent d'une pièce par rapport à l'autre? Est-ce que vous mettez un planning?
Déjà j'ai des géniaux assistants, j'ai trois assistants en fait qui sont formidables, voilà, qui travaillent aussi pour moi et qui savent en fait ce que je veux du spectacle. Donc il leur arrive de donner des notes sans moi. Et puis, je viens une fois par semaine, à peu près, voir mes spectacles.
Parce qu'il faut rectifier le tir, parce que ça peut
partir. Oui, parce que c'est
on vient de recevoir
un SMS,
en fait. Vous n'avez que deux assistants.
Ah bon?
Mais c'est pas grave, il vous en veut pas.
D'accord. C'est gentil. Mais non, en fait, j'ai vraiment trois assistants, je ne sais pas pourquoi.
C'est une vanne, faut pas discuter les vannes.
Je ne la comprends pas, c'est là, pour l'instant, j'avais tout compris. Je me dis, merde, j'ai pas compris. Quelque chose m'a échappé.
Tout est clair dans ma tête, mais comme beaucoup de choses.
En fait, comme c'est du spectacle vivant, oui, en fait, ça décale un peu. Parfois, en fait, les notes, c'est juste dire c'est formidable. Parce que vous... En fait, quand le spectacle est très bien, ça développe des idées. Ouais. D'un coup, je me dis, ah oui, ça, on n'a pas fait, on peut tenter ça, etc. Et puis, les acteurs, il faut les nourrir, sinon ils s'ennuient. Hein. Sinon, ils vont au théâtre un peu comme à l'usine. Si de temps en temps, on leur redonne pas une petite direction,
ils peuvent tomber dans leur travers.
Ouais, ça peut arriver, ouais, qu'ils tombent dans leur travers. Il y a des acteurs qui s'ennuient jamais. Par exemple, Hirsch, c'est le genre d'acteur qui, lui, ne s'ennuie jamais. Il ne dévie pas. Et voilà. J'ai quasiment rien à lui dire, en fait, à vrai dire. Très franchement, tant en temps, je donne une indication. Bon, voilà.
Peut-être le rassurer en lui disant que tout va bien. Peut-être qu'il a besoin.
Oui, ça lui dit que c'est formidable. Vous êtes dans le bon cap.
Il a besoin encore d'être rassuré.
Évidemment, quand c'est Berléand, j'ai beaucoup de choses à dire.
Ah, ça, vous parlez pas.
Ça, et comme j'ai eu la chance,
Vous avez de la chance parce que nous, on n'a plus rien à lui dire.
Et en plus, c'est pas vrai parce que Valor, il est hyper droit et pareil, il dévie pas beaucoup. Mais oui, il faut redonner de l'envie, de l'élan. Ouais.
À partir de 16h.
Ah, le pauvre.
Ah, il reçoit. C'est les fêtes de fin d'année, on distribue. Jean-Joseph Julot, merci de venir à ce micro. Jean-Joseph, vous êtes écrivain, auteur de la littérature française pour les nuls, publié aux éditions First en 2014. On avait envie de vous demander quelle est d'abord la définition d'un classique. Quand on dit c'est un classique, c'est un incontournable. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est de cet ouvrage? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est son succès en librairie? Qu'est-ce qui définit un classique?
Oui, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que pour qu'il y ait, pour qu'on puisse dire d'une œuvre que c'est un classique, ça repose en fait sur trois éléments. Il faut que l'auteur soit connu et reconnu de son vivant. Et toujours dans ce premier élément, il faut qu'il y ait une glose, un commentaire, il faut que les universitaires s'emparent de son œuvre, il faut qu'il y ait beaucoup de choses écrites, beaucoup de critiques, et cet ensemble fait qu'il a toutes les chances de passer dans les générations suivantes. Deuxièmement, il faut que l'œuvre traite de quelque chose d'universel.
Et d'intemporel.
Et d'intemporel, voilà. Et donc ça peut se transmettre non seulement, si on parle de la littérature hexagonale, ça se transmettra en France, mais ça se transmettra partout dans le monde, au fin fond de la Chine, de l'Amérique du Sud, etc. Et troisièmement, il faut que les lecteurs reçoivent cette œuvre-là dans leur contexte socio-économique, etc., etc. Ça fait beaucoup de choses, ça arrive, donc il arrive que pour certains, on va prendre le cas de Victor Hugo, ça soit quasiment automatique. Lui, il est de son vivant connu, reconnu, il pratique tous les genres, il va passer par la grande porte à la postérité, Les Misérables, vous savez, la mise en scène qui est effectuée dans le monde entier. Pour d'autres, c'est curieux. Parce que, je prends l'exemple...
Rendons à Claude-Michel Schoenberg, le livret des Misérables. Ouais.
Oui.
Et c'est, qui est extraordinaire dans le monde entier, mais qui n'a pas été un succès en France. Ouais. Incroyable.
Oui. C'est vrai, au Mexique, enfin ailleurs, en Australie, c'est fou,
un énorme succès dans le monde entier.
Parce que c'est un type universel, et comme un petit peu comme la pièce que vous avez montée.
Oliver Twist.
Et puis, il y a des cas quand même particuliers. À la fin du 18e siècle, milieu 18e siècle, il y a un grand poète dont on dit c'est le plus grand poète que la Terre ait jamais porté en France. Il s'appelle Jacques Delisle. Est-ce que vous connaissez Jacques Delisle? On dit de Jacques Delisle qu'il vient après Voltaire. Eh bien, Jacques Delisle, au début du 19e siècle, disparaît à cause de la vague romantique des Lamartine, des Vigny, de tous ceux qui vont s'installer dans la poésie, dans la littérature, en disant non, mais ce Jacques Delisle, franchement, il décrivait la nature de façon niaise et mièvre. Enfin, voilà. Et donc, il était paré, lui, pour passer à la postérité. Et il n'est pas passé à la postérité. Or, Voltaire, eh bien, Louis-Sébastien Mercier, un chroniqueur de l'époque, dit Voltaire, de toute façon, ses pièces seules lui permettront de passer à la postérité. En politique, il est nul. En philosophie, il est nul. Voilà un contemporain de Voltaire qui dénigre Voltaire. Il s'est trompé.
Alors souvent, les classiques sont utilisés pour les comédies musicales, vous l'avez dit et rappelé à l'instant. Est-ce que ça permet, ces comédies musicales, avec leur succès populaire, de toucher une nouvelle génération qui va revenir vers l'original? Est-ce que ça relance, entre guillemets, les ventes des classiques?
Bien sûr, c'est ce qui est extraordinaire, ce sont les supports aujourd'hui, les nouveaux supports, la comédie musicale, la télévision, tout ce qui est aussi Internet, enfin tout ça permet de mettre en scène, pour ce qui est de la comédie musicale, les récits, comme Oliver Twist, comme beaucoup d'autres, tous ceux dont on a parlé, et ça, c'est pour les jeunes générations, qui sont peut-être davantage habituées au visuel que à la lecture, eh bien, c'est une porte d'entrée, oui, vers l'œuvre et ce qu'elle véhicule.
Il y a pourtant des classiques, et nous les premiers, où quand on était à l'école et qu'on les a lus, on était plutôt imperméable au talent à l'écriture. Donc il y a un âge pour lire certains classiques. Je pense à Proust, par exemple. La première fois, ça peut être difficile à lire. Et puis après, quand on est plus mûr.
Oui, ça a d'ailleurs été très difficile à lire pour André Gide. Vous savez qu'il l'a refusé chez Gallimard quand La Recherche de temps perdu arrive. Gide dit non.
J'ai aucun de ces albums de toute façon.
Et alors, effectivement, parce qu'à l'école, on nous force, j'étais prof, je sais, hein, on force les élèves à.
Parce que c'est au programme. Étudier.
C'est au programme. Ouais. Mais à nous, les profs aussi, de faire passer la chose, de la mettre en scène, de faire, je sais pas, des petits textes critiques, de dire aux élèves, qu'en pensez-vous? Si vous en pensez du mal, dites-le surtout, lâchez-vous. C'est ce que je faisais avec mes élèves. Ça marchait parce qu'ils se disaient finalement, peut-être que c'est pas si mal que ça. Mais les classiques à l'école, oui, ont mauvaise réputation parce qu'on nous a forcés à...
Oui, puis parce qu'un livre, c'est aussi une rencontre. Et de même que dans la vie, on est plus oui, ou moins prêt à rencontrer des gens selon sa, le moment de sa vie, de sa maturité, voilà, et de sa capacité à apprécier. On peut lire L'écume des jours à 10 ans et le relire à 15, et il ne va pas nous pénétrer de la même manière.
Exactement, ouais,
oui. Et puis, il y a des. Justement, vous avez raison de souligner ça. À l'école, on offre justement toutes les possibilités de lire tel ou tel livre, et peut-être qu'à 30 ans, ouais, quelqu'un va se dire tiens, mais ce livre-là, finalement, eh bien, je vais le relire parce que j'en ai peut-être pas saisi la substance côté, ouais, et le message aussi.
D'où l'intérêt aussi de la littérature française pour les nuls que vous signez, c'est aux éditions First. Merci, merci Jean-Jacques pour votre visite. On voit, Daniel oui, Morin, les grands classiques de la littérature ne meurent jamais, il ne faut pas hésiter à les relire, il faut même encourager d'ailleurs les jeunes à les relire, à les découvrir.
Oh le salaud !
Quoi encore ?
Oh le cochon !
Une fois encore, vous avez tapé dans le mille. Quel archer vous feriez, monsieur Guy, un vrai Robin des Bois. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous visez avec un œil crevé. Non, faut arrêter avec les classiques. Crève Balzac, fuck Dumas, crève Dickens, crève Jacques Delisle, fuck la glose. C'est place honteux à la nouvelle génération, génération non, à l'écriture moderne et incisive, place aux jeunes auteurs, comme moi. J'écris d'ailleurs, ne riez pas, j'écris d'ailleurs en ce moment un truc formidable. C'est l'histoire d'un animateur de jeux télé qui, suite à de nombreux échecs et une condamnation à de la prison ferme pour sévices et maltraitance, se retrouve du jour au lendemain sur Radio Courtoisie. Non mais les classiques, oh, les classiques ne servent à rien, bon Dieu. Est-ce qu'il a pensé à écrire Les Misérables 2, Victor Machin? Ben non, hein, il fait son petit roman et après cric-crac dans ma baraque, je me laisse vivre. Aucun suivi clientèle. La mère Rowling avec Harry Potter. Voilà, elle est réactive, la greluche, c'est moderne, ça, c'est de la relation client. 8 bouquins sur le magicien binoclard, là, dont des doubles, 8. Et alors, il est où Alain Fournier? Il est où avec son livre unique? Oui, je m'appelle Alain Fournier, j'écris
juste le grand mot. Il est où le grand mot? Il est où?
Il est où le grand mot? Et après, c'est fini, j'arrête. Feignasse. Enfin, chez les modernes, j'ai une pensée. Pensée pour l'inconnu, cet homme ou cette femme, pétri de talent et d'humilité. Oui, j'ai une pensée pour celui ou celle qui a écrit Le Bottin. Oui, Le Bottin, monsieur oui, Guy, tous les noms de tous ceux qui ont le téléphone par ordre alphabétique, péniblement, chaque année, sans faire d'esbrouf, sans faire de chichi. Voilà ce que j'appelle un auteur ou une autrice moderne. Alors, monsieur
beaucoup,
Guy...
Beaucoup de personnages, pas beaucoup d'actions. Hein.
Mais oui, mais quand même, voilà, c'est du génie. Désolé, votre attitude conservatrice me consterne, et une fois de plus, je tiens à le dire, vous avez dit...
N'importe quoi. Merci.
La bande originale, la vie sur France Inter.
On refait le tour, tous les jours, la même assiette, le même bouillon, soir et matin, mais non, on ne dit rien.
La comédie musicale, ça repose beaucoup quand même sur la musique.
Yes, voilà, yes, yes.
Et donc,
tellement juste, tellement
chargé d'émotions. Donc c'est ces cordes, ces arrangements.
Oui. Et moi,
parce que
je dis sans aucune agressivité,
mais il y a un côté intemporel. On parlait d'intemporalité de l'œuvre, mais aussi dans la musique. Ça aurait pu être composé il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, bien il y a 20 ans, à part peut-être quelques arrangements. Mais
non, mais bien sûr.
Ah, bien sûr.
Et je dirais même c'est très volontairement anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est prêt pour être exporté à Londres ou à New York.
Ça sera peut-être le cas. Mais en tout cas, cette musique-là, elle sert le propos. C'est pas une musique en fait qui est faite pour passer en radio. C'est une musique en fait qui est faite pour servir une histoire et pour faire avancer l'histoire. C'est ça qui m'a plu et qui
Donc il n'y a pas eu de recherche de tubes.
Non, on n'a jamais cherché les tubes.
Tiens bon, sois fort. Pour
ça c'est du tube ça.
Non ça c'est ce que
regarde Patrick Sébastien.
Ça c'est ce que j'écoute avant de venir à la radio pour me donner du moral quand je te vois Daniel.
C'est notre relation qui est traduite là.
Pour ceux qui t'attendent dehors.
C'est juste avant de faire l'amour.
Tiens bon, sois fort.
C'est
bon.
En tout cas, moi je dois avouer que c'est la musique qui m'a inspiré presque plus que l'œuvre de Dickens. Parce que l'œuvre, en la lisant, c'était un roman qui était fait pour écrit par épisode. Vous savez, c'était publié dans un journal. Je trouve c'est parfois un peu délayé, enfin, etc. Il y a un peu un côté un peu pathos, c'est parfois un peu simpliste. Et moi, c'est la musique, je trouve qu'elle dépasse l'œuvre. Et c'est vraiment cette musique-là qui m'a inspiré. Et Shai Alon, qui écrit la musique, est vraiment un gars, pour moi, vraiment à suivre, quoi. Comme peut-être son Schoenberg et Boulbil qui ont écrit Les Misérables.
Et vous allez participer, vous allez chanter, parce que vous avez une super voix.
J'ai une très belle voix quand je parle, quand je chante. Non. Alors, t'entends, pour expliquer, je suis obligé de chanter. Ah. Et heureusement que les répétitions ne sont pas enregistrées, quoi. Parce que non,
j'ai... j'ai trompé, nous avons un document.
Une sorte d'épaisse document. En fait, encore une fois, c'est Brecht qui disait qu'il n'y a pas meilleur acteur qu'un metteur en scène qui montre. C'est très facile de montrer aux autres, en fait, quand on est metteur en scène. Mais d'un coup, on me donnerait des consignes, on me demanderait de jouer ou de chanter, je serais catastrophique.
Oliver Twist, le musical, c'est à la salle Gaveau jusqu'au 26 février 2017. Notre invité, Ladislas Chola. Et voici Michael Kiwanuka. C'est Michael Kiwanuka.
Est-ce que c'est bien ça?
C'est de votre bande originale ce matin, avec notre invité Ladislas Chola, qui met en scène Oliver Twist, le musical à la salle Gaveau, et ce jusqu'au 26 février 2017, qui met en scène Avant de s'envoler de Florian Zeller avec l'excellent Robert Hirsch. Ça, c'est jusqu'au 15 janvier 2017 Exactement. Au théâtre de l'œuvre. Momo est en tournée avec Muriel Robin, François Berléand. Résiste, ça finit ce soir
à Lille.
La comédie musicale qui reprend les grands succès de France Gall et Michel Berger. En fait, fin février, vous serez pratiquement en vacances.
Oui, exactement. Enfin, je commence après à rêver, faire les maquettes pour la suite, les films, les projets qui suivent.
On en parle dans la dernière demi-heure, Ladislas Chola, notre invité, jusqu'à midi et demi.
Messieurs, connaissez-vous ce fameux dicton ? Si tu n'es pas le roi de l'humour, évite les blagues. Offre-lui une bague. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour lui faire vraiment plaisir, offrez-lui un bijou.
Qu'attendez-vous pour entrer chez votre bijoutier ?
Quand Corinne de Toulouse baisse d'un degré son chauffage électrique, elle permet à Romain de Sedan de regarder la télé. Toute l'année, et surtout en hiver, les gestes d'économie d'électricité de chacun comptent pour tout le monde. Nous sommes tous raccordés au même système électrique, et quand il fait froid, il est mis à rude épreuve. À la maison ou au travail, des gestes simples permettent à tous de ne pas manquer de courant et d'agir pour le climat.
Ensemble, économisons l'électricité. Découvrez tous les gestes d'hiver sur développementdurable.gouv.fr ou au 0808 800 700, service gratuit plus prix de l'appel. Un message du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME.
France Inter,
on aime,
on vous en parle.
Hors série Society, une année en France. 132 pages d'entretien en profondeur et des reportages pour raconter la France de 2016. Les grands événements, mais aussi ce qui est parfois passé sous les radars médiatiques.
Politique, sport, médias, culture, faits divers, ce hors-série aborde tous les visages de la société française. Hors-série Society, une année en France, à lire en ce moment et à retrouver le 28 décembre à 10h sur France Inter dans Grand Bien vous fasse.
Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Les informations, Marc Poitevin.
L'homme abattu à Milan cette nuit est bien le principal suspect de l'attentat de Berlin. Le ministre de l'Intérieur italien n'a pas l'ombre d'un doute. Déclaration faite il y a moins d'une heure lors d'une conférence de presse. Cet homme, Anis Amri, a été tué lors d'un contrôle de police de routine. À Rome, Mathilde Imberti.
Il circulait manifestement de façon suspecte, Anis Amri, devant la gare milanaise de Sesto San Giovanni. C'est comme ça que les deux hommes se sont approchés de lui. C'était sur le parking d'un centre commercial, 3h du matin dans la nuit froide milanaise. Une patrouille composée de deux policiers s'approche de l'homme et lui demande ses papiers. Il sort une arme immédiatement. Il la sort de son sac à dos, d'après les médias italiens, et sans hésiter, eh bien, il va tirer sur l'un des agents qui sera blessé à l'épaule. Ses jours ne sont pas en danger. Le ministère de l'Intérieur italien a remercié l'efficacité de sa police. Maintenant, l'itinéraire emprunté par Anis Amri avant d'arriver à Milan, eh bien, il est retracé par les médias italiens. Il serait passé par la France, un train de Chambéry à Turin, puis un autre train jusqu'à Milan. Alors, que venait-il chercher en Italie? Des complices, peut-être? Une planque? Pourquoi pas? Tout est possible. Le ministre de l'Intérieur italien a précisé qu'il ne donnait pas tous les éléments de l'enquête à ce stade. On rappelle qu'Anis Amri a passé 4 ans en Italie entre 2011 et 2015, mais 4 ans en prison. Il a été condamné pour l'incendie d'une école, pour des menaces, pour des violences. L'Italie avait souhaité le renvoyer vers la Tunisie, mais faute de coopération, cette expulsion n'avait pas été rendue possible. Et à sa sortie de prison, où il se serait radicalisé, eh bien Anis Amri avait remonté la péninsule pour s'installer en Allemagne, où il résidait depuis l'été 2015.
Mathilde Imberti pour France Inter. En Allemagne, deux frères soupçonnés de préparer une attaque ont été interpellés. La police l'a annoncé cette nuit. Jusqu'ici, les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec l'attentat de lundi à Berlin. La cible des deux frères, c'était un des plus grands centres commerciaux du pays. Il se trouve à Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne. Vladimir Poutine, satisfait après la reprise d'Alep hier par le régime syrien. Pour lui, c'est un pas très important vers le règlement du conflit en Syrie. Déclaration rapportée par des agences russes et faite lors d'une réunion entre le président russe et son ministre de la Défense. Vladimir Poutine ajoute que l'objectif de la Russie est de parvenir à une fin des combats en Syrie. Pour le régime de Bachar el-Assad, la chute d'Alep marque sa victoire la plus importante depuis le début de la guerre, c'était en 2011. Le flou autour d'un accord entre le pouvoir et l'opposition au Congo, il devrait être scellé, mais visiblement ça se complique. Et c'est ce qu'indique une source proche des négociations. Et ce texte doit permettre une sortie de crise après les affrontements mortels de ces derniers jours. Il prévoit notamment des élections fin 2017 et le maintien du président au pouvoir jusqu'à l'arrivée de son successeur. En échange, Joseph Kabila s'engage à ne pas briguer un troisième mandat, ce qui est interdit par la Constitution. Les chauffeurs de VTC ont repris leur mobilisation contre Uber ce matin. Ils se sont rassemblés à proximité des aéroports parisiens. Des barrages filtrants ont été mis en place. À Lyon aussi, les chauffeurs de VTC ont manifesté leur colère. Ils ont organisé une opération escargot dans les rues de la ville. Claude Cordier était sur place.
Moi, pour vous dire, j'ai investi 45 000 euros pour finalement toucher 4,50 euros. Franchement, ça fait mal.
Uber m'a tué, Uber arnaque, Uber s'est recruté, ruiné, remplacé.
Respectez l'itinéraire qu'on va vous donner.
Les slogans s'affichaient ce matin avant l'opération Escargot, menée dans le centre-ville par une cinquantaine de voitures.
On fait du travail, c'est même pas du travail, c'est vraiment de l'esclavage moderne. On fait des courses à 4,50. C'est 2-3 baguettes de pain. Vous voulez payer votre gasoil, votre voiture, votre assurance.
Je vais vous montrer si vous voulez. Vous voyez, 63 km, 47 minutes pour 33 euros. On est des prestataires de services pour eux. Sans nous, ils sont rien. Et sans eux, on va pas dire qu'on est rien. Il y a d'autres plateformes. Mais eux, aujourd'hui, ils ont le monopole.
À Lyon, ils sont plus de 1000 chauffeurs à travailler pour la plateforme et sont prêts à poursuivre le mouvement. Ils réclament toujours une baisse de la marge de 25% touchée par Uber. Ben Ali, l'un des organisateurs lyonnais.
Aujourd'hui, c'est sensibilisation et à partir de la semaine prochaine, toutes les actions faites à Paris seront dupliquées sur l'ensemble des villes de province. Je pense que Uber joue la montre. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie puisque les chauffeurs sont déterminés.
L'opération Escargot s'est poursuivie toute la matinée pour se terminer place Bellecour. Lyon, Claude Cordier, France Inter.
Et les organisations syndicales appellent les chauffeurs de VTC à boycotter. L'américain Uber boycotte jusqu'à ce que leur rémunération soit augmentée.
Tous les dimanches matins, à 11h sur France Inter,
on va déguster
François-Régis Gaudry.
Comme chaque année pour notre émission de Noël, trois grandes voix de France Inter jouent les invités mystères. Ils et elles lèvent le voile sur leur passion culinaire à travers des recettes, des péchés mignons et des adresses gourmandes. On va déguster la petite cuisine interne de France Inter.
Le dimanche matin sur France Inter, à 11h.
À dimanche.
Messieurs, connaissez-vous ce fameux dicton ? Un baiser pour dire je t'aime. Un collier en or pour dire à la folie. Moi je dis ça, je dis rien. Pour lui faire vraiment plaisir, offrez-lui un bijou.
Qu'attendez-vous pour entrer chez votre bijoutier ?
France Inter.
On aime.
On aime, on vous en parle.
My real name is Patterson.
Patterson, le nouveau film de Jim Jarmusch.
Your poetry is really, really good.
Patterson, chauffeur de bus, vit avec Laura. Il écrit chaque jour des poèmes sur un carnet secret.
Look me in the eye for a second. You are a great poet.
Patterson, un poème cinématographique avec Adam Driver et Goldshifté Farahani.
Working on a poem for you.
A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem.
Retrouvez Jim Jarmusch demain à 10h dans On aura tout vu. Patterson, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Midi 6 sur France Inter, on retrouve Nagui pour la deuxième partie de la bande originale.
Merci Marc Potvin, tout à l'heure le journal de 13h et on vous retrouve tout l'après-midi pour nous informer. Ladislas,
met
en scène Oliver Twist musical à la salle Gaveau, prolongé jusqu'au 26 février 2017, avant de s'envoler la pièce de Florian Zeller, mise en scène par Ladislas Chola, une pièce qui a été écrite sur mesure pour Robert Hirsch. Est-ce qu'elle a été écrite par Florian Zeller sur mesure pour votre mise en scène ? C'est-à-dire, vous étiez au courant du projet avant son écriture ?
Non. Bon, en fait, Florian, il me fait lire ses pièces une fois qu'elles sont terminées, et il me parle pas forcément de la gestation, etc. Et du coup, ce qui est plutôt intéressant pour moi, parce que mon premier œil, il est assez naïf. Je sais pas du tout quel est le sujet. Et sur cette pièce-là, comme j'avais monté le père avant, j'ai eu besoin même d'une lecture pour me dire ah oui, c'est bon, c'est assez différent du père. J'ai de quoi raconter, quoi. J'ai assez de matière.
Est-ce qu'il y a des possibilités quand on travaille avec des auteurs contemporains et amis, j'imagine, de modifier ou de faire quelques coupes ou de dire là on est trop long, là il y a un ventre mou, là au contraire on pourrait insister là-dessus.
En fait, oui, je retravaille toujours avec les auteurs. Dans le cas de Florian Zeller, il y a rien à changer. En fait, il écrit très
intolérable.
Non, c'est pas qu'il est intolérable, c'est qu'en fait, il écrit court, quoi. C'est-à-dire qu'il y a
intolérant plutôt que intolérable.
Il y a pas de gras, en fait, dans son écriture.
Mais alors, j'imagine que à l'inverse, Oliver Twist, il faut totalement respecter l'œuvre, le classique, et vous êtes tenu par l'histoire et par les chansons.
Là, pour le coup, en fait, le librettiste Christopher Delarue, en fait, qui est un jeune gars de 22 ans qui a écrit le livret.
Il a 22 ans.
Il a 22 ans, oui. Voilà. Et en fait, il est.
Il s'est
inspiré.
Ça calme.
Mais il a pris en fait des épisodes du roman. Il est assez fidèle au roman, mais il a évidemment pas tout pu prendre, quoi. C'est-à-dire que c'est forcément, il y a forcément des choix. Mmh. Et puis après, on a retravaillé ensemble sur le livret, mais son livret était vraiment pas mal du tout dès le départ.
Je vais devenir riche sans plus tarder, car j'ai le passe-partout des maisons du quartier. Si une porte me résiste, le petit entre en piste, ça va être fastoche. Je vais m'en mettre plein les poches.
Et je rappelle que les musiques sont jouées en live. C'est extrêmement important parce que c'est suffisamment rare dans les comédies musicales françaises pour le préciser. Il y en a certaines qui l'ont fait, mais pas beaucoup. C'est une question de coût et de production, il faut appeler un chat, voilà.
Tout à fait,
ça, c'est et clair. Si vous êtes au balcon, vous aurez peut-être le violoniste à côté de vous par manque
exactement,
de place.
Ou le clarinettiste sur vos genoux en fonction.
Voilà. En fonction de la musique.
En choisissant son instrument. Quoi,
c'est... Exactement.
Dis donc. Voici, après le talent d'Oliver Twist et de Ladislas Chola, voici malheureusement l'inverse, c'est-à-dire Daniel Morin.
Ah oui.
Va-t-il finir l'année ?
Moi aussi, je vous aime.
Ah, c'est le feuilleton.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part. Perdu dans le 16e arrondissement de Paris, une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec l'incontrôlable André Manoukian, le névrosé Augustin Trapenard, Nagui, le magnifique, Laura Adler, la mystique, mais aussi Laurence, la directrice qu'on dirait qu'elle prend de la drogue, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin
En apparence.
Aujourd'hui, veille de week-end de Noël, toute la grille de France Inter baigne dans l'esprit de la nativité. Une volonté de Laurence, la directrice épileptique de la station, qui en ce 23 décembre au matin, fait son petit topo. Bon, ce week-end c'est Noël, c'est la dinde, c'est le sapin, c'est la magie de Noël, c'est Disney, c'est dégueulasse. C'est dégueu, mais c'est vendeur. Alors je sais que parmi vous, certains vont faire leur bobo de gauche en refusant de jouer le jeu, et à tout cela je dis ta gueule. Allez, je compte sur vous pour jouer le jeu, et surtout si vous voulez faire partie de la prochaine grille de rentrée. Toujours prêt à faire mieux que les autres, Augustin Trapenard, le leader de Boomerang, l'émission que quand elle s'arrête elle revient, invité du lourd. Aujourd'hui il reçoit les reines du traîneau du Père Noël. Bien. Au début, tout va bien. Augustin parle de l'esprit de Noël, de la joie partagée, du bonheur, de porter de la félicité. Mais quand Augustin commence à parler à ses invités de la pollution de la couche d'ozone à cause de leur paix, les reines n'ont plus envie de jouer le jeu et quittent le studio en ayant déféqué sur ce pauvre Augustin. Ailleurs dans la radio, Nagui s'apprête à recevoir un vrai VIP, le VIP de la fête. Il accueille dans la bande originale le Père Noël en personne. Aujourd'hui dans la bande originale de la superstar, la star du réveillon. Il ressemble au Captain Igloo mais sans moins le poisson. Il s'habille en rouge comme un Romanov mais il est plus drôle. Pour le Père Noël, faites du bruit. Tout se passe bien, sauf quand au bout de la 15e question, le Père Noël continue de répondre en faisant juste « oh, oh, oh ». Ça agace Nagui, qui profite de la vulnérabilité du vieillard, le tabasse copieusement, le laissant inanimé sous le piano de Richard Lornac. De son côté, André Manoukian a frappé fort. Il a réussi à inviter un groupe de lutins. Tout se passe à merveille, sauf quand André pose la question qui fâche. Il leur demande « Alors les gars, en vrai, elle est bonne Blanche-Neige ?» Fou de rage que Dédé les ait pris pour des nains, les lutins lui sautent dessus et lui pètent la gueule. Dans son style incomparable, Laura Adler a prévu une heure bleue thématisée Noël, elle aussi. Ça donne une émission originale et engagée à la fois. Bonsoir et bienvenue dans l'heure bleue. Ce soir, veille de Noël, je reçois une bûche. Bonsoir, la bûche. Vous savez quoi, je respecte votre silence. Un silence que je comprends comme un cri de révolte contre vos conditions de confinement dans des chambres froides, sans armes et parfois sans respect de la chaîne du froid. Par solidarité avec votre combat mutique, nous allons passer le reste de cette émission dans le silence.
Bien.
Toujours avec un coup d'avance, Nicolas Demorand prépare un spot promo du Téléphone Sonne pour le 26 décembre. Aujourd'hui 26 décembre à 19h15 et pendant toute la nuit, un Téléphone Sonne spécial cadeau de merde. Votre Noël a été à chier, vous avez reçu un cadeau qui ne vous correspond pas, un cadeau que vous avez déjà, un cadeau d'une valeur ridicule, bref, vous n'en voulez pas, appelez-nous, nous trouverons un acheteur. Mon Dieu, quelle radio magique. Invité de prestige, débat contradictoire, magie de Noël, tous les ingrédients étaient réunis. Bref, aujourd'hui encore à France Inter, le génie était au rendez-vous. Que du bon, de l'excellent, et tout ça avec un thème imposé. Alors oui, je sais, c'est dingue, ça paraît inouï et même extraordinaire, et pourtant tout ça, c'est juste une journée ordinaire.
À France Inter. Merci Daniel Morin.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
France Inter.
Tout à l'heure, nous avions reçu Jean-Joseph.
On n'a rien dit.
Tout à l'heure, nous avons reçu.
Jean-Joseph
Julot, qui a signé la littérature française pour les nuls aux éditions First. J'ai oublié de préciser qu'il publie également, qu'il a choisi et commenté les fables de La Fontaine. J'adore, parce que ça, c'est vraiment intemporel, c'est culte et malin et intelligent et drôle, les fables de La Fontaine, illustrées par Chenu et commentées, sélectionnées par Jean-Joseph Julot. Pardon de ne pas l'avoir précisé tout à l'heure. Ladislas Chola, vous mettez en scène Oliver Twist, le musical, à la salle Gaveau. Vous avez parlé de mettre en scène et de réaliser votre premier film. Vous m'avez pas donné le titre.
En fait, le titre de la pièce s'appelait « Je ne serai pas au rendez-vous » et je ne sais pas si le film gardera le même titre ou pas.
Et ce « Je ne serai pas au rendez-vous », c'est le message d'un fils à ses parents en disant qu'il s'en va ou...
Non, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a toujours été là où il fallait, quand il le fallait, toujours à l'heure exactement au rendez-vous de sa vie, et qui d'un coup décide de plus être là où les autres l'attendent. Voilà.
Et de prendre en main son destin.
De prendre en main son destin, voilà.
Totalement autobiographique.
Ça correspond à une partie de ma vie au moment de mes 30 ans où j'ai changé pas mal de choses dans ma vie. Ouais, j'ai fait un petit peu de netteté.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi pour Ladislas Chola.
Oui, Ladislas, je vous sors de la promo. Et quelle promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire Super. D'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Ladislas.
A thousand hearts are great within my bosom. Advance our standards, set upon our foes. March on, join bravely, let us do it pell mell.
C'est peur.
If not to heaven, then hand in hand to hand.
C'est pas Emmanuel Macron?
C'est Richard III. C'est Richard III et c'est Kevin Spacey.
Ah, pas mal.
C'est Kevin Spacey dans une mise en scène de Sam Mendes, que l'on connaît plus pour ses réalisations au cinéma, American Beauty, jusqu'au dernier James Bond. Mais parallèlement, qui est aussi producteur de séries télé, qui a même dirigé en 2012 la comédie musicale
Cabaret.
Charlie and the Chocolate Factory.
Ouais, il a aussi mis en scène
et Cabaret aussi. Donc j'imagine que Sam Mendes, tout d'un coup, quand on voit un peu le panel, c'est un metteur en scène.
J'adore Sam Mendes.
Qui a un parcours de vie qui doit vous plaire.
Ah, bien sûr, vous visez juste, j'adore son travail. Vraiment.
Et justement, je me demandais quelles pouvaient être d'autres références. Il y a Sam Mendes, bon, c'était au pif que je l'ai choisi.
Un joli pif en tout cas.
Vous voulez dire dans les grands metteurs en scène, les gens
qui sont capables de
vos références.
En fait, j'adore Joël Pomera par exemple. Ah. J'adore son théâtre. Je trouve que c'est un des plus grands artistes qu'on ait en ce moment. Voilà, je trouve que à la fois en tant qu'auteur, en tant que directeur d'acteur, en tant que inventeur d'univers, voilà, je suis fasciné par son théâtre. J'adore aussi Robert Lepage chez les Québécois. Qui est vraiment un metteur en scène dont je suis le travail avec attention. Et puis après c'est assez large, moi. Et ce que j'aime chez Mendes, justement, c'est qu'il va il va monter James Bond, ce qui est totalement étonnant pour lui. Il a une ouverture d'esprit absolument dingue et c'est pour ça que j'respecte beaucoup son travail.
Et est-ce que c'est compliqué de faire un tel grand écart en France? Est-ce que c'est plus complexe ou est-ce qu'on considère qu'il faut faire fi de ce genre d'idées et qu'on trace son chemin?
On dit que c'est plus complexe, mais en tout cas je trace mon chemin, je me pose jamais cette question-là. Et c'est aussi pour ça, quelque part, que je suis content moi aujourd'hui d'être dans le privé, parce que si j'avais été dans le public, puis d'un coup j'avais dit « Tiens, je vais mettre en scène la comédie musicale de France Gall, Michel Berger », on m'a regardé un peu avec des gros yeux, parce que c'est considéré comme populaire. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, l'éventail, il est très large. C'est-à-dire que je peux, dans la même journée, travailler sur Oliver Twist. La pièce de Florence Zeller, elle parle de la fin de la vie, elle parle d'un couple, en fait, qui envisage la fin de la vie. C'est une pièce grave. Mais pour moi, c'est comme des voyages différents. Et j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir une palette assez large. C'est ce qui me plaît, moi, dans mon métier. C'est d'aller vraiment vers un genre plus populaire, un genre plus grave, plus noir, etc.
Et si vous deviez choisir un opéra, par exemple Christophe Honoré, qui fait à la fois du cinéma, de la mise en scène, qui, avec Les Malheurs de Sophie, a aussi inséré la chanson dans le genre cinématographique. Il s'est emparé de Così fan tutte récemment. Vous, s'il devait y avoir un opéra qui pourrait...
Musicalement, j'adore Peer Gynt de Grieg, parce que je trouve qu'il y a un nombre finalement de tubes dans cet opéra dingue. Et c'est une musique qui porte comme ça, etc. Donc j'adorais Peer Gynt.
Voilà, bon, ça c'est une piste. Rémi sans famille, toujours pas.
Pourquoi pas, mais tout à l'heure, en même temps, la référence à Zerbino et à Capi, que j'avais oublié, m'a beaucoup touché. Donc peut-être que j'y reviendrai.
On poursuit avec un autre son, ça devrait vous faire plaisir, vous venez d'en parler à l'instant.
Naturellement, j'en suis venu à dire que
que j'étais ni metteur en scène, puisque je ne monte pas les pièces des autres, ni auteur, parce que je ne fais pas qu'écrire. Donc je suis un écrivain de spectacle, un auteur de spectacle.
C'est Joël Pommerat, ouais. Voilà, donc ça tombait plutôt bien. voilà, vous venez de l'évoquer, qui explique un peu qu'il il met en scène juste ses productions. Moi, je voulais savoir votre rapport justement à l'écriture. Vous avez coécrit, c'était en 2012, Je ne serai pas au rendez-vous avec Patricia Haute-Potier.
Exactement.
Et vous aviez déclaré à l'époque que vous aviez une attirance pour ça, pour ouais. l'écriture, mais qu'en même temps, vous n'étiez pas un auteur, mais un...
En fait, je suis un metteur en scène qui écrit quand ouais. j'écris. J'écris une autre pièce depuis que je vais monter dans les années à venir.
Ouais.
Mais en fait, pour moi, je me considère jamais comme un auteur. C'est vrai que j'ai déjà mes images de mise en scène. Je sais déjà quand j'écris telle scène que ça va se passer comme ça dans le décor. J'ai déjà en fait tout mon imagination, elle est tournée vers la scène.
Et en quoi ça fait pas de vous un auteur? Parce qu'il y a des écrivains peintres, des écrivains photographes qui peuvent visionner tout de suite ce qu'ils vont mettre sur le papier. Vous avez une vision très cinématographique en plus, vous de.
Oui. J'ai un tel respect pour les auteurs. Je dois dire, et moi je suis vraiment au service, un metteur en scène il est au service en fait, au service des autres, ouais. au service d'un auteur qui écrit, de talent sur le plateau, et moi mon grand talent c'est de mettre en avant le talent des autres, et j'ai du mal à vrai dire à me dire que je suis ouais. auteur, je le suis par la force des choses, et ce film voilà, que j'ai écrit en ce moment va forcément faire un peu plus de moi un auteur.
Et pour terminer, un petit cadeau pour vous, Ladislas Chola, c'est dans les coulisses de la Comédie Française aux éditions La Martinière. C'est tout le monde assez insoupçonné du français, qui est une grande institution, qui est certes représentante quelque part de l'institution publique, mais qui a su avec le temps montrer une certaine forme de modernité.
Quelle belle maison, et quelle maison en forme aujourd'hui. Les damnés là, de mis en scène par Ivan Vanoff aujourd'hui montrent à quel point cette maison a des talents absolument dingues. C'est un des spectacles que j'ai adoré, moi, cette année.
Et puis, il y a Roméo et Juliette d'Éric Ruff en ce moment qui vaut le détour.
Et merci pour le cadeau, hein. C'est un beau cadeau de Noël, merci beaucoup.
On ne l'a pas payé, donc bon.
Mais non, c'est le Père Noël qui l'a apporté.
On attend toujours que tu nous fasses un cadeau, Tom, hein, mais à part ça, je dis rien.
Voici Sarah Mason avec Western Ravissant. En fait, vous ne laissez rien passer aux autres, quoi. C'est le principe de cette équipe. Hein.
Ah non, c'est fini, ce temps-là.
C'est ça. D'accord. Non, c'est juste pour savoir comment ça allait finir.
Tom le clébard.
C'était Sarah Mason avec Western Arabisant. Et puis à propos de musique, j'imagine que c'est de cette musique dont vous parliez tout à l'heure, Laetitia Chola. Vous êtes au 118-218. Voilà. Nous allons prendre votre appel.
Votre conseillère.
J'adore, j'adore.
Pour en faire une BO ou pour en faire...
Non, mais j'adore l'opéra. Cet opéra-là, je l'adore. Puis ça, c'est la partie douce en fait de l'opéra, mais la partie plus musclée.
Bon, on va pas le passer en intégralité non plus. On fait des efforts.
Merci pour ce petit moment.
Plaisir.
Le matin.
Oliver Twist, le musical, c'est à la salle Gaveau jusqu'au 26 février prochain. Charles Dickens oblige. J'imagine que vous préparez déjà à le jouer à Londres.
À Londres, ce sera peut-être pas évident,
c'est là où ça se passe.
Ça fait tellement partie de leur culture,
bah oui,
que je sais pas s'ils aimeraient que les Français arrivent avec un Oliver Twist made in France. Par contre, il y a des projets, ouais, peut-être de partir le jouer en Asie, en Corée, au Canada. Enfin, ça va voyager.
Et il faut préciser que c'est surtitré en anglais pour les touristes qui viendraient Salle Gaveau et qui ont envie de suivre le texte et l'histoire.
Ce qui est bien, c'est que c'est vrai que Paris est une capitale touristique énorme et en fait, on fait pas grand chose pour les gens qui parlent pas notre langue. Et là, du coup, les touristes peuvent venir.
Oui, le surtitrage arrive plutôt à l'opéra.
Il y a de plus en plus de pièces de théâtre où le week-end, les sessions, en matinée, le dimanche, je crois, où il y a la...
Ouais. Non, mais il faut.
Et Dorset le fait aussi. Oui, absolument. Voici les questions en cascade. Des questions courtes avec des réponses courtes. Leïla, la première.
Ladislas, vous êtes né à Saint-Étienne et grâce à vous, pendant une heure et demie, on n'a pas parlé de foot. Comment ça se fait?
On y va maintenant.
Je dois avouer qu'après Saint-Étienne, j'ai vécu à Marseille. Je n'étais jamais allé au stade Vélodrome pendant toute cette période-là. J'y suis allé seulement une fois dans ma vie.
Merci Ladislas, je vous aime beaucoup.
Tom, Bila.
Donc Saint-Étienne, Marseille, donc vous n'aimez absolument pas le football alors?
Exactement, c'est pas pour moi.
Fred Sigrist.
Alors vous avez mis en scène donc des pièces, là vous réalisez un film. Est-ce qu'un film d'animation est envisageable?
Ça dépend, vous faites partie du casting.
Ah, je peux faire la voix.
Pourquoi pas.
Daniel Morin.
C'est quoi votre geste beauté du matin?
Mon geste beauté du
mais
matin. Que
cet homme est bête.
Oh là là, même mon anti-cerne.
Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour France Gall, j'ai l'impression que Ladislas Chola a discrètement dit que vous étiez une personne d'une tyrannique et méchante. Vous confirmez? Non? Bon, très
pas
bien.
Pas du tout.
Plus, non, désolé pour Bernard Murat et toute la direction du théâtre Édouard VII. J'ai l'impression que Ladislas Chola a discrètement dit que votre théâtre était ringard. Vous confirmez?
Pas du tout, Bernard.
Désolé pour Ladislas Chola qui, après avoir balancé sur la salle Gaveau le théâtre Édouard VII et France Gall, a perdu tous ses contrats pour les 15 prochaines années. Je suis confus. Enfin, désolé pour Leïla et son tube. Ce que j'aime chez les acteurs, ce sont les films. Qui a été battu ce matin par notre nouveau number one, le hit dans la comédie musicale. La musique, c'est important. Eh oui, il n'aime pas perdre Nagui.
Il ne vous épargne rien, Nagui.
J'assume totalement. Merci mille fois, en tout cas, Ladislas, d'avoir
merci,
dans cet emploi du temps chargé, clair, d'avoir trouvé le temps de venir nous parler.
À 23 décembre, en plus.
Bah, c'est un vrai moment de bonheur. Je vous écoute souvent. Et en fait, j'étais vraiment ravi d'être là avec vous.
Ah, il fallait dire ça au début, on était plus sympa.
Vous n'êtes pas trop déçu de voir Daniel en vrai?
Non. Non, plutôt, il est beau gosse, Daniel, franchement. Hein. Non,
c'est enregistré tout ça, c'est enregistré.
C'est dégueulasse. Avant de s'envoler de Florian Zeller, mise en scène par Ladislas Chola, avec Robert Hirsch, au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 15 janvier 2017, il y aura 14 représentations exceptionnelles à partir du 23 janvier de Plein Feu, que Ladislas Chola mettra en scène également avec Lynn Renaud, Fanny Cottençon, Lionel Abelansky et Raphaëline Goupillot. Et Momo de Sébastien Thierry est en tournée avec Muriel Robin, François Berléand, résiste. C'est sa dernière soirée ce soir.
Exactement.
C'est à Lille. Et puis le DVD est en vente libre. Et enfin, Oliver Twist, le musical. Donc jusqu'au 26 février prochain à la salle Gaveau. Bonne fête de fin d'année, en tout cas.
Merci.
Joyeux Noël.
Joyeux
Noël.
À vous aussi, garçons et filles, bonne fête de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine, mais ce seront des best-of qui passeront tout au long de la semaine. Et rendez-vous le lundi 2 janvier.
De bonne humeur.
Et puis à propos du Père Noël, je le ferai chanter demain dans N'oubliez pas les paroles.
Je te confirme.
Oui, il existe et il vient chanter. Bonne journée avec Philippe Bertrand et les carnets de campagne et à suivre le jeu des 1000 euros. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci Nagui, merci la bande et bonnes vacances.